Louise, Antonin, vous êtes nos deux prochains invités de cette troisième émission des 40 ans de la Fraternelle. Des choses à corriger, des choses à dire, des choses sur lesquelles rebondir après avoir entendu la chronique de Monsieur Taxman.
Bonjour déjà.
Bonjour.
C'était super. Moi, ce qui m'a fait un peu rire, c'est les films républicains, parce que dans les archives, je trouve aussi des... Alors, c'est plutôt les années 70, mais des grandes listes de films pour adultes qui ont été projetés aussi le soir. Donc voilà, on ne faisait pas que de l'éducation populaire.
Alors, est-ce que les films pour adultes sont républicains ou pas républicains?
Ah, peut-être. Hein.
Ça, c'est une autre histoire, voilà. C'est un autre débat. Antonin ?
Ben, moi, je dirais simplement, quelle pression avec tout ce passé. Moi qui programme actuellement la salle, ça me rappelle un peu ce que je dois faire tous les jours. Et puis, tout ce passif, heureusement, beaucoup de choses ont changé depuis. Mais, voilà.
Vous arrivez quand, et pour l'un et pour l'autre, dans cette grande histoire de la Fraternelle ?
Alors, moi, je suis arrivé en 2019.
2019.
Voilà, et je connaissais absolument pas le lieu, la région, rien du tout.
Excellente année pour débarquer juste avant la pandémie.
Exactement, j'ai fait une année et puis après il s'est passé ce qui s'est passé, ce qu'on connaît tous.
Louise, pour toi ?
Moi je suis arrivée aux archives en 2021, donc ça va faire 3 ans. Et alors moi je suis originaire de Franche-Comté mais de l'autre côté. Et donc quand je suis arrivée ici, c'était la première fois que je mettais les pieds à Saint-Claude et à la Fraternelle.
C'est quoi l'autre côté de la Franche-Comté ?
Alors
c'est
l'autre côté de la
Franche-Comté.
Alors c'est le côté franc plutôt, franc. Du coup.
C'est-à-dire c'est Besançon, etc.
C'est même plus haut, c'est plutôt collé à l'Alsace.
Oh !
Voilà.
Je ne savais pas qu'il y avait deux côtés à la Franche-Comté. Tu vois.
Oui.
J'apprends aussi.
Mais vous pouvez aller voir l'autre côté qui est très joli aussi.
Oui, des très beaux plateaux du côté de Belherbe, etc.
Quels sont les publics qui viennent vous voir au cinéma et aux archives pour vous ?
Alors moi, je pense que j'ai un public aux archives qui est assez divers. Alors la plupart du temps, on a des chercheurs, donc des sociologues, des historiens, même des géographes, des gens qui font des arts divers. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent faire des visites guidées. Voilà, ça va de CP jusqu'à la terminale. Même après, on a même des étudiants qui viennent faire des visites. Et puis sinon, moi, dans mes bénévoles, j'ai plutôt des gens qui sont à la retraite et qui viennent faire des recherches par pure curiosité, en fait.
Tu as aussi des gens qui t'amènent, enfin là, tu t'occupes de beaucoup d'inventaires, de son d'archives. Est-ce que tu as aussi des gens qui t'amènent des pièces, des documents aussi ?
Oui, alors pas que des documents, j'ai principalement des documents. Alors ça va être des livres ou des actions qu'ils ont retrouvées chez eux, mais aussi des objets. Puisqu'en 84, en fait, quand la maison est en friche, il y a des gens qui récupèrent des choses chez eux et qui, à l'heure actuelle, se disent bah, c'est mieux qu'ils soient visibles et qu'ils ne soient plus chez moi. Donc, il n'y a pas si longtemps, on a recueilli un berceau pour le mettre dans notre... qui est en très bon état, dans notre exposition, par exemple.
Un vieux berceau.
Un vieux berceau, oui, qui était vraiment utilisé à la pouponnière en 1919.
Qui sera peut-être visible, donc, d'ici là. Antonin, toi, on a appris de sources sûres qu'il y avait... une certaine partie du public qui venait uniquement à la Fraternelle ici pour le cinéma, mais qui ne fréquentait pas le reste de la Fraternelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors nous, c'est un peu particulier. On est ce qu'on appelle un cinéma généraliste, c'est-à-dire qu'on essaye de faire le grand écart entre à la fois des films grand public. Il ne faut pas oublier qu'on est le seul cinéma de Saint-Claude. Donc du coup, c'est aussi un peu notre devoir entre guillemets d'avoir donc ces films grand public, les films porteurs. On va parler des Marvel, des Disney, etc. qui amène effectivement une partie de la population de Saint-Claude qui ne vient pas au reste de l'activité de la FRAT. Et puis de l'autre côté du spectre, on est classé RSA, on a les trois labels RSA, et ce qui fait que là, on passe des films beaucoup plus, entre guillemets, de recherche, des films un peu plus compliqués, en VO, dans la quasi-totalité des cas. Et donc, on a cette espèce de grand écart en permanence à faire aussi au niveau de la programmation. On n'a que 3 salles de cinéma. Et donc, moi, mon travail, c'est vraiment ça, de faire cet écart et de ne pas oublier un public ou l'autre, puisqu'il faut réussir effectivement à contenter les deux. On a ces deux publics qui se croisent à la Fraternelle, ce qui est assez rare.
Et justement, est-ce que le but du cinéma et des archives, en fait, qui sont des lieux, qui ne peuvent pas vraiment bouger de la Fraternelle, est-ce qu'on essaie de faire venir des gens à la Fraternelle avec une programmation particulière, avec des pièces d'archives qui doivent être visitées, ou est-ce que justement on essaie d'exporter la Fraternelle ailleurs en essayant de diffuser le plus possible les films et puis les documents ?
Alors pour les archives, ça va être beaucoup ici, puisque en fait, c'est aussi montrer les lieux et que, par exemple, les enfants se rendent compte qu'il s'est passé autre chose avant. Mais depuis cette année, on a fait des ateliers avec Elsa, qui est médiatrice culturelle, directement dans les salles de classe. Moi, je leur sors des archives et je leur amène et je leur explique mon métier pour qu'ils comprennent que même dans une petite ville, on peut faire des métiers un petit peu improbables, on va dire, et qu'ils comprennent ce que c'est une archive et qu'eux, en fait, ils en créent tous les jours, par exemple.
Toi aussi, tu dois avoir ce rapport-là avec les scolaires aussi, beaucoup dans ton boulot.
Exactement. Après, nous, on est un peu... C'est quand même beaucoup les gens, évidemment, un cinéma, ça reste le lieu, le cinéma, les salles. Donc c'est principalement des gens qui viennent, l'objectif étant de les faire passer ce fameux Porsche qui peut faire peur. Mais par contre, depuis quelques années, effectivement, on fait quand même des plein air. Donc on organise des plein air à Saint-Claude, dans les quartiers notamment, pour justement exporter, comme tu disais, le cinéma et montrer qu'aussi le cinéma peut aller vers ces personnes-là, vers les quartiers. Et que voilà, il n'y a pas de souci et qu'ils sont aussi les bienvenus à la fraternelle.
Si tu devais, Louise, me donner une pièce d'archive dont tu te souviens, qui t'a vraiment marqué, laquelle ce serait ?
Une qui m'a vraiment marqué. En ce moment, alors c'est très anecdotique, mais en ce moment, je fais des recherches sur les femmes au sein de la frat, puisque ce n'est pas les personnes qu'on voit directement. Et une des pièces, c'était dans un compte-rendu de conseil d'administration. Une femme qui s'appelle Aline Perrier, qui s'occupait des enfants du peuple, donc c'est la section théâtre des enfants du jeudi. Et elle, en 1929, part en burn-out, la pauvre, et s'est notifiée dans le conseil d'administration, puisqu'elle est passée de s'occuper de 30 enfants à 95 en une année. Donc voilà, la pauvre, elle part pour des raisons de fatigue, ce qu'on appelle un burn-out, quoi.
Et toi, Antonin, si tu devais... on sait que tu as déjà opéré peut-être la sélection des films mystères qui sont là toute la semaine au cinéma de la Frat, mais si tu as un film qui t'a peut-être marqué depuis 2019 dans ta programmation, lequel ce serait ? Plutôt un film ou plutôt même le moment du film avec les gens, ce qui s'est passé aussi dans la salle au moment de la diffusion peut-être ?
Ok, c'est vaste question. Il y a effectivement beaucoup de séances intéressantes. Il y a une séance, alors malheureusement, je me rappelle plus du titre, mais bon, c'était un film de skate qui a été tourné il y a quelques années, ça devait être en 2019, un film assez RSA, assez pointu, et j'avais été hyper étonné de voir justement des jeunes, ce qu'on voit quand même pas beaucoup, nous au cinéma malgré tout, venir voir ce film en VO, donc en anglais sous-titré, et ça avait été un bon moment assez sympa. Et puis une deuxième séance, on avait passé Interdit aux chiens et aux Italiens, qui est un film d'animation vraiment chouette, et on avait fait intervenir une personne qui a participé au film et qui donc montrait un peu ce que c'était que l'animation. Et en fait, étonnamment, la salle était remplie d'adultes et de personnes qui venaient parce que le film est en italien et parce que ça parle de l'Italie, et qui ne savaient même pas qu'il y avait un intervenant. Et ça a été assez magique, parce que de voir toutes ces personnes assez ébahies devant qu'est-ce que c'est que le travail du film d'animation et comment on fait un film d'animation, ça m'a assez étonné, surpris, et c'était une super séance avec vraiment des très très bons moments. Donc voilà.
Taxman, tu as parlé des films mystères pour les 40 ans, donc un jour un film et on remonte le temps, 84, 94, etc. Comment ils ont été choisis, ces films-là ? Est-ce que ça a été facile ? Et en même temps, le résultat est assez, personnellement plutôt réjouissant, mais presque déconcertant. Le premier film, 84, c'est Strangers in Paradise, Jim Jarmusch. Il y a combien de personnes à Saint-Claude qui ont vu Strangers in Paradise à la sortie ? À part Christophe Jeannot.
Alors le choix, il s'est fait. Alors, c'est moi qui ai fait une première sélection. Il faut savoir que le monde du cinéma est assez compliqué en termes de distribution et tout ça. Donc déjà, il y a des contraintes que nous, on a. Tout simplement, il faut que le film existe, par exemple, en numérique, qu'il ait été numérisé. Il faut qu'il y ait un distributeur en France. Il faut que le distributeur ne nous demande pas trop d'argent. Donc déjà, moi, j'ai fait une espèce de première sélection comme ça. Et ensuite, en fait, on a ouvert au vote. Donc ce sont les bénévoles de l'association Afraternelle qui ont voté via internet, j'avais créé un petit vote, et puis eux-mêmes du coup ne savent pas quels sont les films qui ont remporté les suffrages, donc c'est comme ça que ça a été choisi.
Donc même la victoire reste mystère, jusqu'au jour voilà, même.
Voilà, c'est ça, exactement. On essaye, alors plusieurs personnes essayent de nous soutirer des informations à l'équipe du cinéma, mais voilà, c'est difficile de tenir sa langue. Des fois, malheureusement, on a fait quelques petits écarts, mais voilà, on essaye de tenir jusqu'au bout.
Donc si vous voulez connaître les films, c'est vers 3h du matin avec 2 verres de petit rhum. Et peut-être que vous aurez une chance de connaître le film qui va être projeté le lendemain. Comment on peut résumer, alors c'est une pareille genre de question impossible, mais l'importance du cinéma dans l'histoire de la Frat. Et aujourd'hui aussi, pour toi Antonin, comment est-ce que tu te sens redevable comme ça de l'héritage de cette histoire cinématographique? Elle est assez importante, même au-delà de l'histoire du cinéma. On se rend compte avec Taxman depuis 3 jours, en discutant avec les invités, que l'image dans la Frat est ultra importante, que ce soit dans la façon de se documenter, la prise de photos, etc. Là, évidemment, l'atelier de sérigraphie, avec toutes les luttes que la sérigraphie peut porter, peut transmettre et peut augmenter. Et le cinéma, j'imagine qu'il y a une fonction de propagande, tu en as parlé dans ta chronique, Taxman, mais pas uniquement. Est-ce que c'est un des premiers éléments d'imaginaire qui est apparu à la Frat et comment ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui?
Oui, c'est un des premiers en fait. Il y a eu 2 gros pôles qui ont fait marcher la coopérative, en tout cas ici, rue de la Poya. C'était le café, qui était très très fréquenté, et en fait le cinéma et le théâtre. C'était très important pour les ouvriers de se créer une culture commune, donc avec des films qu'ils voyaient tous ensemble, des pièces de théâtre qu'ils voyaient tous ensemble. Puis on retrouve qu'ils débattent sur beaucoup de choses. L'arrivée du parlant, par exemple, ça prend des mois avant qu'ils aient des films parlants, parce qu'au début, ils disent que non, ils ne sont pas d'accord, que ça ne marchera pas, qu'il faut qu'il y ait des orchestres, il faut que ça continue. Puis à un moment donné, ils se mettent dans le rythme un peu, et puis voilà, ils passent au parlant, ce genre de choses.
Ça a été moteur presque pour l'industrie cinématographique, ou en tout cas l'économie cinématographique de la région, Saint-Claude, enfin et la Frat. Est-ce qu'on a des moyens de mesurer ça ou...
Alors nous, on a les chiffres des entrées et puis toute la programmation qu'ils ont fait, mais ouais, il faudrait faire une infographie pour voir ça.
Aujourd'hui, ça, c'est le bassin de population touché par une projection. Il est très étendu, Antonin.
Alors... Pas vraiment, on va dire que c'est quand même surtout principalement vraiment Saint-Claude. Pour la raison principale, bon, il y a déjà des questions d'accès tout simplement. Hein. Le cinéma est quand même enclavé dans le sens où il faut un accès, voilà, il faut venir en voiture, etc. C'est difficile de se garer. Et puis il y a la proximité donc avec Oyonnax où il y a aussi un cinéma. C'est vraiment Saint-Claude même, on va dire, qui est le principal spectateur chez nous au cinéma. Hein.
Toute dernière question, petit point d'histoire ou de praticité, c'est on a construit une cabine de projection comme une excroissance de la salle de cinéma, tout simplement pour des raisons techniques, c'est que les films en cellulo prenaient vite feu, à défaut de prendre l'eau, et du coup il a fallu construire, augmenter le bâtiment, et j'ai l'impression qu'à la Frat, il y a aussi souvent cette espèce de mouvement où les contraintes techniques deviennent une occasion de faire de l'art. On peut penser aux consoles qui soutiennent, par exemple, on en a parlé hier et avant-hier, qui soutiennent la cabine de projection, mais ça, j'ai l'impression que c'est un mouvement constant aussi, que le lieu évolue en fonction de ces contraintes qui sont d'abord des contraintes techniques, non ?
Oui, c'est ça, en fait, le lieu, il est, enfin, en tout cas, pas tant ces dernières années, mais à partir de 1910 jusque dans les années 50, en fait, il s'adapte aux fonctions. Il a fallu une boulangerie, on a rehaussé des plafonds, il a fallu une cabine de projection, et ben on l'a mis à côté, et puis on a fait une petite passerelle pour que la personne puisse partir au cas où. Enfin, voilà, c'est un lieu qui s'adapte à ses activités, en fait.
Voire même pendant la période d'occupation, c'est qu'on avait l'imprimerie sous le café.
C'est ça.
Et je ne sais plus qui m'a raconté hier qu'on organisait des grandes fêtes pour masquer le bruit des rotatives qui imprimaient des clans d'eau, pour pas que l'armée allemande soit au courant de ce qui se faisait sous le café.
Oui, en fait, entre 1940 et 1944, ils ont imprimé le populaire. Et en fait, sans raison apparente, ils demandaient juste aux gens de chanter, de danser très fort, pour couvrir le bruit des machines et pouvoir cacher ces exemplaires dans des caisses d'alimentation. Et elles étaient envoyées directement à Lyon. Voilà, les gens ne savaient pas pourquoi, mais ils faisaient du bruit, en tout cas.
Donc l'image est toujours, toujours au service du lieu. Antonin, question de science-fiction, pour un programmateur de ciné, ça devrait aller. C'est quoi l'avenir du cinéma, la Frat, Saint-Claude ? comment on peut rêver ou le prévoir?
C'est une question qu'on se pose tous les jours, surtout là, c'est compliqué. L'après-Covid a été dur pour tout le monde, on ne va pas se le cacher. Il y a de plus en plus de concurrence de plateformes et tout ça. C'est vrai qu'on est dans des périodes un peu difficiles pour le cinéma. Sachant qu'on ne l'a pas tout à fait évoqué, mais le cinéma a quand même été longtemps le poumon économique de l'association. Ça a été quand même pour ça aussi que c'est la première activité qui a été reprise au moment de 84 quand l'association naît. C'est pour ça qu'a été créé les deux salles de cinéma. Tu parlais effectivement de l'aménagement du bâtiment. Bah voilà, en fait, il a fallu... Une salle, c'était bien. Trois, c'était mieux. Donc, il a fallu les créer. Et donc, ça a été fait en 88. On peut souhaiter que le meilleur, mais c'est vrai qu'on se rend compte que notre public n'est pas extensible à l'infini. Et voilà, on essaye de garder le cap, de rester positif, de toujours avoir cette espèce de jeu d'équilibriste, comme je disais tout à l'heure, entre des films grand public qui attirent quand même une certaine partie de la population de Saint-Cloud qui ne passerait pas ce Porsche, et puis d'avoir quand même notre programmation RSA qui est aussi un peu le cœur de notre métier. On parle d'éducation populaire, etc., passer de la version originale, des choses comme ça qui font partie intégrante de l'association et qui, en fait, assez étonnamment, d'ailleurs, même pour certains distributeurs, ont fait des très bons chiffres, des fois, sur des films compliqués, on va dire, avec de la VO, etc. Ce qui montre bien qu'il y a une espèce de particularité du cinéma ici, au sein de la Fraternelle, et qu'on a un public qui est assez spécial et qui est assez, quand même, on va dire, éduqué façon de parler, on va dire ça de manière très large, mais voilà, qui aime la VO, qui aime les films un peu de recherche.
J'avais un peu la même question pour toi, Louise, et puis aussi pour les nommer, parce que du coup, nous, on s'est... On a quand même, du coup, on s'est imprégné aussi de l'histoire de la Fraternelle. Bad Neighbor m'a gentiment offert l'ouvrage d'Alain Mélo qu'on peut trouver ici à l'Artothèque. Il y a eu aussi le boulot de tes prédécesseuses Lisanne Cordier, Céline Pointurier sur le boulot des archives. Toi, maintenant, c'est toi qui es responsable de ce pôle-là. Est-ce qu'il y a une fin à ce travail des archives ou est-ce que c'est impossible à répondre comme question?
Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de fin. Même si y a une fin physique au moment où on aura tout classé, mais y a déjà un nouveau travail qui se met en place puisqu'on veut numériser nos archives. On a un labo qui est en train de se mettre en place de numérisation. Donc c'est un nouveau projet et une nouvelle fin dans longtemps. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait de fin parce qu'en fait, on arrive toujours à partir d'un document ou juste d'une anecdote à tirer des choses, et puis à visibiliser aussi des gens qui n'étaient pas auparavant. Donc c'est aussi ça pour moi qui est bien et qui amène à beaucoup de travail et à peu de fin normalement.
Bah, comme les films à la demande, on aura bientôt les archives à la demande de la Fraternelle. Merci beaucoup Antonin, merci beaucoup Louise pour nous avoir accordé un petit peu de temps. Cher Bad Neighbor, on va continuer notre émission parce qu'on a encore normalement deux invités, si je compte bien.
Une et demie, enfin de sûr. En tout cas, on attend Pauline qui coordonne l'Artothèque pour continuer de parler d'images et de peuple et de près des images au peuple ou de près du peuple aux images.
Il y a peuple et images en tout cas, c'est sûr.
Dans un endroit ou un autre. Ça se gode. Et en attendant, on prend un petit peu d'avance sur la journée de demain. Demain soir, You Can Dance sera en concert au Café de la Frat. Et You Can Dance est déjà dans la radio. Point Break a toujours un coup d'avance, cher Taxman.
Incroyable.